Vous êtes plutôt un compositeur de la note ou un compositeur du son? Souvent, j'entends ce jeu d'opposition. Est-ce que c'est une opposition qui vous parle ou est-ce que c'est une opposition un peu absurde?
Au départ, j'étais dans le son, ça vous l'avez bien compris. Et puis progressivement, d'après ce que je viens de vous dire précédemment, je suis revenu à la note. Et effectivement, la note, évidemment, me paraît beaucoup plus intéressante quand on sait la combiner avec d'autres notes, bien entendu. Maintenant, le son m'intéresse aussi. Je pense que même aujourd'hui, dans les œuvres que je compose, que ce soit Mosaïque Céleste, que ce soit l'Harmonie des Sphères ou même dernière pièce qui s'appelle « Le vent se lève », il y a toujours à un moment dans mes partitions un travail sur le son, sur la texture en tant que telle. Et ça y est, peut-être dans une proportion moindre que ce que je faisais avant, on va dire que le rapport s'est inversé. Avant, le rapport au son était beaucoup plus prédominant par rapport à la note, et aujourd'hui, et je situe ça vers les années 1990, 95, 94, à l'époque où j'ai effectivement composé cette pièce d'orchestre Années-Lumière, eh bien, le rapport s'est inversé.
Alors, vous citez un compositeur, Ligeti, Giorgio Ligeti. Pourriez me dire, il semble aussi que pour les Spectros, il était très important comme compositeur, un peu même un déclic. Est-ce que, en quoi, donc vous avez presque eu le même déclic, ou est-ce que c'est un faux déclic? Vous allez me le dire précisément. Giorgio Ligeti, qu'est-ce qu'il a pu représenter pour votre génération et pour vous en particulier comme compositeur?
Bah oui, c'est un compositeur absolument génial. J'ai une grande admiration pour lui. Pourquoi? À l'époque, quand j'étais dans la classe d'Olivier Messiaen, compositeur de ma génération, enfin ceux avec lesquels on se reconnaissait, on avait une sorte de, on va dire, d'esthétique un peu commune, enfin de choses comme ça, Ligeti nous avait fascinés. Pourquoi? Parce qu'il remettait en cause la question du temps musical, le temps musical qui avait défini les musiciens de la musique sérielle, on va dire ce que Pierre Boulez et tous ses disciples avaient défini. Et donc, vu que nous repoussions cette esthétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on la trouvait inaudible. Ligeti, comme d'autres compositeurs d'ailleurs, je pense à Berlioz, je pense à Stockhausen, qui se sont très très vite défaits de cette école-là, ont reposé les bases d'une esthétique dans laquelle le temps et la texture musicale donnaient une autre dimension musicale. C'est-à-dire que quand on écoute toutes les œuvres qu'il a fait à partir d'atmosphère, concerto de chambre, son extraordinaire Requiem, qui était un chef-d'œuvre monumental, on est dans une autre dimension musicale parce qu'il y a à la fois les notes, il y a la texture, il y a un temps qui est juste et il y a ce matériau musical qui nous porte quelque part de façon absolument merveilleuse. C'est-à-dire qu'on est porté dans cette musique, et c'est vrai que quand j'ai entendu la première fois son concerto de chambre et notamment son troisième mouvement, ce travail rythmique qui est fait sur des pulsations qui se superposent, ces temps superposés, j'ai eu une espèce de... Mais non seulement, il y a effectivement ce travail rythmique qui est posé là, mais aussi son premier mouvement également, dans lequel justement toute cette micro-polyphonie faite, qui vient d'ailleurs, quand on voit l'analyse des choses, qui vient de l'école polonaise, il faut se souvenir de Lutosławski, de Penderecki, ce qu'il faisait à l'époque, ça vient bien de là. Et lui a eu cette intelligence formidable de prendre ce travail des clusters qui effectivement s'est très vite essoufflé parce que ça pouvait pas tenir longtemps. Il a compris que partant de là et en essayant de concentrer ce travail, en faisant un travail alors microscopique sur ce type de mini cluster et en les faisant évoluer, on arrivait à des choses absolument prodigieuses.
Et vous citez dans la préface Luciano Berlioz, mais vous n'en reparlez plus après. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette personnalité de Luciano Berlioz?
Alors c'est pas moi qui ai écrit la surpréface, c'est pas moi, c'est Michel Tozzi qui a fait une très belle préface d'ailleurs que j'ai lue avec, quand elle me l'a montré, j'ai eu grand plaisir de le lire. Berlioz, pourquoi? Berlioz, c'est à cause, il est italien, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, il a un sens musical, c'est une autre dimension musicale. Peut-être que dans Luciano Berlioz, il y avait aussi le sens du texte, Le sens, c'est quelqu'un qui a manipulé les œuvres avec, je pense évidemment à sa symphonia extraordinaire qui m'avait bouleversé aussi quand j'étais chez Messiaen. Vous voyez, il y avait voilà ces choses. En fait, il y a trois compositeurs qui m'ont bouleversé, si vous voulez, à l'époque quand j'étais chez Messiaen. Il y avait Ligeti, j'ai déjà expliqué pourquoi. Luciano Berio, par rapport à l'adjonction de la parole, si je puis dire, du texte parlé et du texte chanté. Le travail qu'il a fait aussi sur la texture, avec tout ce travail qu'il a fait avec à l'époque ce qu'on appelait la musique électroacoustique. Et puis il y avait Xenakis pour cette espèce de fureur musicale, cette espèce d'objet brut qu'il arrivait à faire et dans lequel quand même c'était difficile de rester insensible à cette énergie extraordinaire qui se dégageait de sa musique, et avec un sens aussi justement cette énergie qu'il arrivait à canaliser par un travail de pulsation et par un travail rythmique, en fait assez simple a priori, mais par un travail évidemment de compositeur, par toute une cuisine et des superpositions, il arrivait évidemment à toucher évidemment énormément de choses, oui, bien sûr.
Vous utilisez le mot texture plusieurs fois, qu'est-ce que vous sous-entendez, qu'est-ce que veut dire? Parce que bien sûr le grand public, il entend musique, mélodie, mais texture, ça lui paraît un peu bizarre, ça lui paraît presque moderne.
Une texture, c'est ce que je dirais, c'est quelque chose qui s'échappe à l'harmonie en tant que classique, une harmonie classique. Quand on écoute une œuvre de Bach, Mozart, Ravel, il y a une harmonie qu'on entend parfaitement. Une harmonie, même ça peut être des harmonies jouées avec des notes dans la musique sérielle. Hein. Il y a des harmonies qui sont posées, même si tout ça est éclaté, va dans tous les sens. Il y a des harmonies posées avec des notes. La texture, c'est un fouillis de notes, c'est une pluie de notes, c'est un nuage de notes qui vont dans tous les sens de façon telle que c'est impossible de repérer un accord à un moment précis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'échappe. Donc on passe à ce moment-là dans un autre univers qui est complètement insaisissable. On n'a plus une stabilité harmonique telle qu'on l'avait à l'époque romantique, classique, que sais-je, et même au début du XXe siècle. On n'a pas cette stabilité-là. On est dans un univers où... on ne sait plus où on est, tout simplement. Alors, ça peut être fait comme avec Ligeti, avec des notes qui courent dans tous les sens, avec tous ces canons qu'on n'arrive même pas à entendre. Quand on analyse cette musique, c'est assez fascinant d'ailleurs. On voit que ces textures de Ligeti sont faites avec des canons inaudibles. Mais il y a des canons, c'est des canons de notes, mais dont les rythmes, on peut pas les entendre, en tout cas les percevoir. Donc là, il y a des notes, mais on peut faire aussi la texture avec des sons, des bruits de cloches, des bruits de je sais pas, tel qu'on a fait ça, tel que j'ai fait aussi ça dans les studios de musique électroacoustique. Moi, je me souviens en GRM, on faisait des sons, on enregistrait des choses au micro, on les mixait, on les superposait, on les écrasait, on les filtrait, on faisait tout un tas de calipettes, et ça donnait en fait des sons, ça donnait des textures, tout simplement. La texture, c'est quelque chose sonore, c'est quelque chose qui échappe complètement à une harmonie, on va dire, classique romantique, enfin, ou même à l'époque baroque, hein.